On prie pas.
OK, on va commencer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on va voir la deuxième épître aux Corinthiens. Là, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à tes pieds. Nous reconnaissons que tu es le roi, le maître de l'univers. Tu es le créateur, tu es celui qui dirige la vie de tous les hommes, de tous les gouvernements, de tous les individus de la terre, de tous les croyants. Alors, Seigneur, nous nous mettons à tes pieds, te demandant la bénédiction, te demandant de la sagesse, te demandant que tu nous éclaires. On a plusieurs décisions très importantes à prendre et on a besoin que tu nous guides, Seigneur, dans toute la prise de ces décisions-là. Seigneur, on te prie pour François, de manière à ce que tu puisses l'aider là-bas. Et alors, on te demande ta bénédiction et ta direction. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Amen.
OK, dans notre étude de la deuxième épître aux Corinthiens, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, le lieu et la date de composition, bien entendu, le contenu, le but principal de la deuxième épître, ses thèmes, sa structure littéraire, les plans du livre et quelques autres observations. Le premier point qu'on regarde, l'arrière-plan de la deuxième épître aux Corinthiens. Plus que tout autre, cette épître nous permet de pénétrer dans l'intimité du cœur de Paul. Donc l'auteur, bien entendu, on croit que c'est l'apôtre Paul. L'authenticité de cette lettre n'est pas mise en douce, mais son unité. Les destinataires, l'Église de Corinthe, bien entendu. On va regarder le lieu, la date de composition. La première épître aux Corinthiens a probablement été envoyée au printemps 56. Timothée était en chemin vers Corinthe. Il a dû revenir vers la Pentecôte avec de nouvelles alarmantes. À ce moment-là, Paul a sans doute décidé de se rendre directement à Corinthe par voie de mer, puisqu'il dit qu'il viendra pour la troisième fois chez eux. Entre le séjour coïncident avec la fondation et la visite annoncée, il y avait donc une visite intermédiaire de caractère pénible. Il fut reçu avec froideur. Les gens du parti de Christ s'opposait à lui. L'un des membres l'offense même directement, sans que l'Église intervienne, mettant sa qualité d'apôtre en doute, l'accusant d'avoir dépassé son mandat en venant à Corinthe, peut-être même d'avoir voulu s'enrichir aux dépens de ses convertis. L'apôtre retourne promptement à Éphèse. Là, il écrit une lettre à l'Église de Corinthe. Il l'a fait porter par Tite, mais peu après son envoi, il est troublé. A-t-il bien fait d'être si sévère? À Éphèse, les choses se gâtent aussi. Au cours de l'été, l'orfèvre Démétrius soulève la ville contre l'apôtre. Celui-ci passe de plus par une grave épreuve dont il désespérait de sortir vivant. Impatient d'avoir des nouvelles de l'église de Corinthe, il va au-devant de Tite, qui devait revenir par la Macédoine. Il se rend à Troas. Malgré un terrain favorable à l'évangélisation là-bas, il continue vers Philippe, où Tite le rejoint, porteur de bonnes nouvelles. L'Église a pris des mesures disciplinaires contre l'offenseur. C'est à ce moment-là, donc fin 56 ou début 57, que Paul écrit notre deuxième épître aux Corinthiens, qui est en fait sa quatrième lettre à cette Église. Il ne se rendra à Corinthe que fin 57, après avoir évangélisé l'Illyrie. La deuxième épître aux Corinthiens se répandit moins rapidement que la première. Elle n'est pas mentionnée par Clément de Rome à la fin du 1er siècle. Par contre, elle est connue de Polycarpe et de Marcion. Elle figure dans le canon de Muratori. Elle est confirmée également par Irénée, Théophile, Athénagoras, Tertullien et Clément d'Alexandrie. Certains exégètes ont suggéré que les chapitres 10 à 13 représenteraient une adjonction tirée d'une lettre antérieure d'un ton plus sévère que le début de 2 Corinthiens. Mais cette supposition n'a pas l'appui de la moindre preuve interne et on ne trouve aucune trace d'un tel fait dans l'histoire du texte néo-testamentaire. L'Épître a été écrite en Macédoine, Quelques manuscrits, s'appuyant sans doute sur une ancienne tradition, précisent à Philippe. Maintenant, le deuxième point qu'on regarde, c'est le contenu de la lettre de la deuxième épître aux Corinthiens. Les événements qui viennent d'être retracés expliquent le contenu de la lettre. D'abord, l'apôtre expose les raisons qui l'ont amené à changer ses plans de voyage. Sa conduite a été mal comprise. Son ministère, calomnié. Paul commence donc par écarter une série de malentendus qui ont troublé ses relations avec l'Église de Corinthe. S'il a modifié son itinéraire, ce n'était pas par légèreté ou instabilité de caractère, mais pour ménager les Corinthiens et de ne pas sévir contre l'offenseur. Puis, il ouvre une large parenthèse sur la véritable nature du ministère chrétien, par opposition à celui de ses adversaires à Corinthe. Sa puissance vivifiante, malgré les tribulations qui l'accompagnent, parce qu'il découle de l'amour du Seigneur et du désir de lui plaire. Voilà dans quel esprit Paul accomplit son ministère. Le parallèle constant de son ministère avec celui de l'Ancienne Alliance fait penser que ses adversaires à Corinthe s'appuyaient beaucoup sur la loi de Moïse. Après cette digression, Paul fait part à l'Église de sa joie d'avoir enfin des nouvelles d'eux et de bonnes nouvelles parties. Ayant réglé le contentieux du passé, il peut en venir à ce qu'il occupe dans le présent, la collecte pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Pour préparer la contribution des Corinthiens à ce témoignage de solidarité entre anciens juifs et anciens païens, il leur renvoie Tite, porteur de cette lettre. Enfin, il leur annonce ce qu'il se propose de faire lors de son prochain séjour parmi eux. Il agira sans ménagement contre ceux qui ne se sont pas répentis de leurs anciens péchés et ceux qui continuent à attiser contre lui le feu de l'opposition. Le fil conducteur de sa lettre est donc un développement chronologique, passé, présent, avenir, orienté tout entier vers la visite promise. Pourquoi elle a été retardée? Comment la préparer? Et ce que les uns et les autres devront en attendre. Le thème général de l'Épître est la manifestation de la grâce de Dieu et son triomphe à travers la fragilité humaine. Troisième point qu'on regarde, c'est vraiment le but principal de la deuxième Épître aux Corinthiens, le but essentiel. Le but essentiel de l'Épître est de rétablir l'autorité apostolique de Paul sur l'Église de Corinthe en vue de préparer sa prochaine visite. Il a été attaqué dans sa personne, dans son caractère et dans son enseignement. Il faut donc, bien que cela lui répugne, de réfuter ses attaques pour rétablir son autorité. Dans la première partie, il répond aux attaques et donne des explications qu'il se sent obligé de fournir aux Corinthiens. Instabilité, falsification de la parole de Dieu. Il démontre donc sa sincérité et la pureté de ses motivations et donne à la fraction fidèle des Corinthiens des arguments pour fermer la bouche à ses contradicteurs. Dans cette partie, le poids de l'argumentation repose essentiellement sur la démonstration de la supériorité du ministère de la Nouvelle Alliance. Cette digression constitue le bastion de sa défense. Les Corinthiens doivent être persuadés que le ministère des vrais apôtres de Christ, dans la faiblesse et les tribulations, est bien plus glorieux devant Dieu que celui des super-apôtres qui, avec leurs prétentions de gloire visible, se situent sur la ligne du ministère de l'Ancienne Alliance. Ces caractéristiques du vrai service de Dieu expliqueront le comportement de Paul à Corinthe. La deuxième partie, qui, à première vue, constitue un corps étranger dans cette démarche, le sert également. Les adversaires de Paul ont voulu persuader les Corinthiens que le fondateur de leur Église agissait en franc-tireur, sans lien avec l'Église mère de Jérusalem. Cette collecte les convaincra de la fausseté des accusations. Elle démontre sa sollicitude pour les chrétiens de Judée et l'unité profonde du véritable corps de Christ, constituée par les chrétiens d'origine juive et païenne. Dans la dernière partie, son apologétique se fait plus précise, mêlée à la polémique contre ses détracteurs, avec une ironie parfois mordante. Il dénonce les menées de ceux qui savent si bien faire leur propre publicité, qui sont hautains, arrogants, despotes, mais reculent devant la souffrance. Ses propres titres de gloire sont ses travaux, ses souffrances et sa faiblesse. Donc ça, c'était le but principal. Maintenant, il y a quelques autres buts accessoires. Les différents buts accessoires de la lettre servent tous plus ou moins directement son but essentiel. Chemin faisant, premièrement, l'apôtre exprime sa joie d'avoir vu l'Église revenir à lui dans sa grande majorité. Paul se réjouit du bon accueil qu'elle a réservé à Tite. Deuxièmement, il donne des instructions au sujet de la manière d'agir envers l'offenseur. Troisièmement, il précise pourquoi il envoie Tite accompagné de deux frères pour remettre en main c'est-à-dire la collecte commencée l'année précédente. Quatrièmement, il veut préparer l'évangélisation des contrées situées à l'ouest et s'assurer de l'appui de l'Église de Corinthe. Cinquièmement, il prévient les membres de l'Église que malgré le rétablissement des bonnes relations avec eux, il veut continuer à rester financièrement indépendant d'eux. Sixièmement, dans la perspective de sa prochaine visite, il avertit qu'il continuera à faire la guerre à l'esprit de parti qui divise l'Église et à combattre l'immoralité sans compromis. Aussi, il agira suivant la procédure recommandée par le Seigneur envers ceux qui pêchent et qui sèment le trouble dans l'Église sans montrer aucune faiblesse. Il demande à chacun de s'examiner et de se repentir pour lui éviter de prendre des sanctions. La valeur de la lettre réside moins dans son enseignement doctrinal que dans les renseignements qu'elle nous apporte sur la personnalité et le ministère de l'apôtre Paul, ainsi que sur la vie de l'Église primitive. L'apologie que Paul se voit contraint de faire de sa personne et de son œuvre attaquée, également par ses adversaires, nous découvre à la fois son humilité et sa fierté apostolique, sa douceur et sa sévérité, sa sensibilité et son indomptable énergie. Cette lettre nous permet de pénétrer dans son intimité à un moment de bouleversement et de crise. C'est là que l'homme révèle le fond de lui-même. Elle nous livre ses impressions, nous fait partager son indignation comme sa joie, nous le montre en même temps subjugué par ses émotions et parfaitement maître de lui-même. Elle nous permet aussi, mieux qu'aucune autre, de nous rendre compte de ce qu'impliquait son ministère. Privation, danger, épreuve, souci. Il avait à lutter à la fois contre l'inertie spirituelle des chrétiens, le retour offensif des maux du paganisme, et la malveillance d'adversaires jaloux de son influence. Elle nous montre aussi que la controverse avec les judaïsants, commencée en Galatie, s'est étendue rapidement à toute l'Église primitive, créant une opposition systématique au ministère de l'apôtre Paul en milieu païen, aussi bien que juif. Cet arrière-plan nous permet de comprendre mieux l'ensemble de la carrière et des écrits de Paul. La valeur de l'Épître, cependant, ne se limite pas à son intérêt historique. Aujourd'hui comme alors, l'Évangile et ceux qui la protègent fidèlement sont en but aux attaques de l'adversaire. Celui-ci utilise toujours des hommes agissant sous le couvert d'intentions louables, mais qui, en réalité, sapent les fondements de la foi et déchirent le corps de Christ. Cette lettre montre aux chrétiens la vraie attitude d'un serviteur de Dieu. Ni fausse humilité, ni spiritualité mal comprise qui laisserait à Dieu seul le soin de défendre sa cause. Parfois, les intérêts divins exigent que nous jetions courageusement dans la mêlée en usant avec intelligence des atouts que Dieu plaçait en nos mains. mais cette lutte ne peut jamais être menée avec des armes charnelles. Dieu seul donne à notre combat sens et efficacité. Thème et structure littéraire, quatrième point. La deuxième épître aux Corinthiens est la plus autobiographique des lettres de Paul. Elle contient de nombreuses références aux souffrances que Paul a endurées dans le déroulement de son ministère. À travers l'épître, Paul défend sa conduite apostolique, son caractère et son appel. Le livre consiste en trois principales parties. L'explication de son ministère, chapitres 1 à 7, la collecte pour les saints de Jérusalem, chapitres 8 et 9, et la défense de son apostolat, chapitres 10 à 13. La défense de Paul de son apostolat, du chapitre 10 à 13, est caractérisée par l'utilisation bien maîtrisée de l'ironie et du sarcasme. Il le fait de façon particulière dans la section qui va du verset 16 du chapitre 11 jusqu'au verset 13 du chapitre 12, que certains théologiens ont appelé le discours de l'insensé, ou en anglais « fool speech » des commentateurs anglophones. Paul se moque de la vaine préoccupation des Corinthiens pour les dons spirituels puissants et spectaculaires en se vantant de sa faiblesse et des persécutions qu'il a endurées. Comme d'habitude, je vous ai mis toujours les deux plans. Je vous mets le plan, ceux qui ont les notes, et ceux qui les ont pas, vous pouvez charger, télécharger. Donc, vous avez le plan qu'on appelle succinct, donc vraiment un plan résumé de l'ensemble de la deuxième épître aux Corinthiens, avec le même plan, mais vraiment plus détaillé. Comme je le répète à chaque fois, ce sont des choses extrêmement pratiques si quelqu'un veut étudier la deuxième épître aux Corinthiens de façon un peu plus détaillée. C'est vraiment, on a une idée de ce qui se passe dans l'ensemble. C'est très bien fait, ces choses-là. Alors, c'est très utile quand on veut. Alors, quelques observations. Le sixième point. Les buts de l'épître ont été atteints. On pourrait se demander si les buts de cette lettre ont été atteints. D'après Actes 20, verset 3, Paul se rendit à Corinthe et y passa l'hiver. Ce fut durant ce séjour qu'il rédigea l'Épître aux Romains, œuvre qui suppose chez son auteur un profond repos d'esprit et où il a célébré, d'après ses récentes expériences, le triomphe définitif de l'Évangile sur le judaïsme. Ses efforts pour reconquérir la confiance des Corinthiens, n'ont donc pas été inutiles. Il a dû réaliser ce qu'il avait annoncé dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6, et dans Corinthiens 13, versets 1 à 4. Les perturbateurs ont dû quitter la place. À la fin du 1er et au milieu du 2e siècle, nous apprenons par les lettres de Clément de Rome et de l'évêque Sauter que l'on relisait avec ferveur les lettres de Paul dans les assemblées de l'Église. D'autre part, la collecte doit avoir pleinement réussi, puisque, selon ce qu'il avait promis en cas de succès, l'apôtre s'est rendu lui-même, avec des membres délégués, par les différentes églises à Jérusalem pour y apporter le secours destiné aux chrétiens. Le deuxième point, on a vraiment une caractéristique de l'Épître. On fait une comparaison entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Donc, on regarde 1 Corinthien, c'est une lettre qui est objective et pratique, tandis que 2 Corinthiens, c'est une lettre qui est subjective et personnelle. 1 Corinthien, systématique. 2 Corinthiens, il ne semble pas y avoir un plan apparent dans l'épître. La première épître aux Corinthiens est raisonnée, la deuxième est plus passionnée. Dans 1 Corinthiens, Paul met en garde contre le danger païen. Et dans 2 Corinthiens, il met les croyants en garde contre le danger des judaïsants. Et dans 1 Corinthiens, il nous renseigne sur la vie et le caractère des églises primitives. Tandis que dans 2 Corinthiens, il nous renseigne sur la vie et le caractère de l'apôtre Paul. On a dit qu'elle était la moins systématique et la plus lettre de toutes ses épîtres. Sa trame historique est constamment entrecoupée de digressions. On ne saurait rester impassible devant le pouls rapide de l'auteur, même si on a de la peine à suivre le fil de sa pensée. Il se dévoile sans ménagement et donne une expression si libre à ses humeurs et à ses sentiments changeants que le chemin est ouvert à une compréhension intime du cœur de l'apôtre Paul avec toutes ses tendresses, ses joies et ses craintes. C'est certainement dans cette épître que les sentiments ont la part la plus importante. L'angoisse à Éphèse, l'inquiétude à Troas, la joie débordante en Macédoine, les craintes devant la perspective de la prochaine visite à Corinthe, la fierté et les plaintes, l'affection et la colère, la consolation et l'anxiété, le sérieux et l'ironie alternent constamment et nous font pénétrer dans la vie affective si riche de l'un des plus grands intellectuels de tous les temps. Le style est à la mesure de cette richesse, d'une variété étonnante dans une même page. La syntaxe porte la marque du stress émotionnel de cette tranche de vie de l'apôtre. Les anacolutes, qui est une rupture ou une discontinuité dans la construction d'une phrase, et les phrases interrompues abondent. Les métaphores se succèdent et coulent parfois l'une dans l'autre. Le vocabulaire est d'une grande variété. La moitié des mots n'y apparaissent qu'une seule fois. Environ 90 termes ne se retrouvent pas ailleurs chez Paul. Maintenant, la valeur de cette épître. Sur le plan doctrinal, cette épître nous apporte quelques contributions importantes pour notre compréhension de la pensée théologique de Paul et de la vie des églises primitives. Premièrement, la digression relative au ministère chrétien précise la différence entre les deux alliances et les conditions du service chrétien. Deuxièmement, Jésus, fils unique et l'image de Dieu, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Étant sans péché, il nous a rachetés et réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Mais si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts afin de vivre pour leur sauveur. Troisièmement, la formule trinitaire et les notations sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous montrent que la doctrine de la Trinité est solidement ancrée dans les épîtres pauliniennes les plus authentiques. Quatrièmement, l'épître nous apporte des renseignements intéressants sur la discipline ecclésiastique, complétant 1 Corinthiens 5. Les membres d'Église qui refusent de se repentir sont exclus conformément aux directives de Jésus. Si l'action disciplinaire a porté des fruits positifs, l'Église doit témoigner son amour à ceux qu'elle a corrigés. Cinquièmement, les indications précises au sujet de la liberté, chapitres 8 et 9, montrent l'importance de cet aspect dans la vie chrétienne, dans la pensée de l'apôtre, et complètent 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 4. Sixièmement, le développement eschatologique complète celui de 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 17 et suivants. Autre valeur de cette lettre, là, concernant la vie et la personne de l'apôtre Paul. L'Épître nous apporte des renseignements précieux. L'apologie que Paul se voit contraint de faire de sa personne et de son œuvre, attaquée également par ses adversaires, nous découvre à la fois son humilité et sa fierté apostolique, sa douceur et sa sévérité, sa sensibilité et son indomptable énergie. Cette lettre nous permet de pénétrer dans son intimité à un moment de bouleversement et de crise. C'est là que l'homme révèle le fond de lui-même. Elle nous livre ses impressions, nous fait partager son indignation comme sa joie, nous le montre en même temps subjugué par ses émotions et parfaitement maître de lui-même. Elle nous permet aussi, mieux qu'aucune autre, de nous rendre compte de ce qu'impliquait son ministère. Privation, danger, épreuve, souci. Il avait à lutter à la fois contre l'énergie spirituelle des chrétiens, le retour offensif des maux du paganisme et la malveillance d'adversaires jaloux de son influence. Elle nous montre aussi que la controverse avec les judaïsants, commencée en Galatie, s'est étendue rapidement à toute l'Église primitive, créant une opposition systématique au ministère de l'apôtre en milieu païen aussi bien que juif. Cet arrière-plan nous permet de comprendre mieux l'ensemble de la carrière et des écrits de Paul. Nous apprenons aussi un certain nombre de détails biographiques que cette épître est seule à révéler. Les différentes épreuves liées à ses voyages, la menace d'arrestation par le roi Arétas, l'extase et les visions de Paul et son écharpe dans la chair. La lettre nous apprend aussi que le défaitisme que nous affichons souvent devant les difficultés dans l'Église est un manque de foi dans la puissance de Dieu. Humainement vu, la partie semblait perdue pour Paul à Corinthe, mais cela ne l'a pas empêché d'entreprendre la lutte afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est significatif que, face aux difficultés internes de l'Église, l'apôtre n'attende pas de secours, de nouvelles effusions et de baptême de l'Esprit. Devant la situation tragique de l'Église, une action différente de l'Esprit est nécessaire, une tristesse selon Dieu, la repentance, la purification, la paix mutuelle. Cela devrait nous servir de leçon. Le résultat positif des exhortations, avertissements, reproches donnés d'un cœur aimant peut aussi nous servir d'encouragement. Trois applications. La première, apprenons que ceux qui propagent fidèlement l'Évangile seront toujours en but aux violentes attaques de l'adversaire. Deuxième application, Paul a beaucoup à nous apprendre sur les difficultés du ministère et ses souffrances. Soyons toujours de ceux qui encouragent les ministres de Dieu et non de ceux qui sont des fardeaux pour eux. Prions pour eux régulièrement, pour que le Seigneur leur donne une vie fidèle, sainte et persévérante. Troisième et dernière, l'Épître nous renseigne aussi sur le fait que Dieu aime ceux qui donnent avec générosité et que nous devons d'assister les saints et notre Église locale par notre contribution financière. Étudions la deuxième Épître aux Corinthiens. Elle a beaucoup à nous apprendre sur le service chrétien et son coût. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.